Bonjour Tiffaine, de notre côté, on continue d'explorer l'univers de l'écrivain russe Vladimir Nabokov qui aurait eu 120 ans hier.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vladimir Nabokov se dira toujours très satisfait de sa vie et pourtant, cet enfant de la haute aristocratie russe perdra tout avec la révolution bolchevique, sera contraint à l'exil, verra son frère déporté et son père assassiné. C'est en Europe d'abord, en France, en Allemagne et en Angleterre qu'il passera ses premières années à l'étranger, avant de s'installer aux États-Unis où il écrira ses chefs-d'œuvre en anglais, au premier rang desquels on trouve bien sûr Lolita. Mais c'est en Suisse qu'il terminera ses jours avec sa femme bien-aimée, Vera, comme nous l'avons raconté lundi grâce à Laure Troubetskoy, au cours d'une émission à réécouter évidemment en podcast. Et puis mardi, nous nous sommes demandé pourquoi il y avait tant de personnages d'écrivains et de professeurs de lettres dans les romans de Nabokov. Yannick Chupin nous a expliqué que, en effet, le grand sujet de l'écrivain était précisément comment écrire. Enfin, hier, nous nous sommes arrêtés sur le roman Lolita. C'est Didier Machu qui était là pour nous en parler. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, pour évoquer les célèbres cours que Nabokov a donnés dans diverses universités américaines, Cornell en particulier, nous sommes avec vous, Cécile Gilbert, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît pour vos essais sur Guy Debord, Saint-Simon, Laurent Stern, mais également pour vos romans ou récits, Réanimation chez Grasset en 2012 ou encore Les Républicains en 2017. Vous écrivez également des préfaces pour la collection Bouquins, notamment chez Robert Laffont, où vous vous êtes donc chargé de l'introduction du volume intitulé Littérature de Vladimir Nabokov qui réunit l'ensemble des conférences qu'il a données entre 1941 et 1958 dans plusieurs universités donc américaines où il enseignait la littérature européenne. Avant cela, vous aviez déjà écrit, Cécile Gilbert, sur Nabokov dans le volume Sans entrave et sans temps mort où vous disiez pourquoi il était idiot de crier au scandale à la publication par son fils de son dernier livre seulement ébauché, l'original de l'horreur. Vous disiez, Cécile Gilbert, finalement c'est nabokovien de publier ce livre. Qu'est-ce que ça signifie en l'espèce que ce terme de nabokovien pour vous?
Eh bien, en l'occurrence, c'était amusant parce que le livre, l'original de Laura, en fait, était publié sous forme de fiche détachable puisqu'en fait, on avait retrouvé le manuscrit de la manière dont Nabokov travaillait ses manuscrits.
Dans sa version anglaise, hein,
voilà.
Fiche détachable.
Voilà, dans la version anglaise, absolument. Donc, sur des petites fiches qu'il écrivait au crayon de papier. Et donc, il y avait tout un moyen assez ludique, c'est pour ça que c'était nabokovien, parce que c'est ludique et luxueux en même temps d'avoir ces petites fiches et de pouvoir les détacher et jouer à composer le volume.
Ludique et luxueux, c'est ça, Nabokov?
Bah, le luxe de l'art, le luxe du jeu, la gratuité, il n'y a pas de fonctionnalité jamais chez Nabokov, il n'y a pas d'utilitarisme, on est juste dans la dépense.
Oui. Vous parliez aussi de la féerie, en reprenant évidemment ces termes à lui. Vous disiez de Lolita que c'était un livre entre crime et féerie. C'est ça aussi Nabokov, être entre crime et féerie?
Complètement, parce qu'il y a toujours quand même derrière les feux d'artifice, les sortilèges, les enchantements de ce magicien, il y a toujours quand même quelque chose toujours d'une de l'ordre de la peu de la perversion derrière et d'une stratégie toujours très très maîtrisée.
C'est de la perversion pour s'amuser.
Pour s'amuser, pour composer des problèmes élégants, au même titre qu'il composait des problèmes d'échecs, hein, aussi, il faut pas oublier. Tout ce qu'il composait, en fait, que ce soit problème d'échecs, fiction, c'était toujours des espèces de mise en abîme élégante de problèmes esthétiques, moraux. Donc c'est ça qui est, voilà, cette dimension ludique existe.
L'intérêt pour la perversion chez Nabokov, est-ce que c'est une manière de se mettre en marge de la société et de dire, voilà, on peut aussi parler, remonter le courant et ne pas aller dans le sens justement du courant. On peut faire des livres à ce sujet-là.
Moi, je pense qu'il n'avait pas besoin de la perversion pour ça. J'ai pas trop envie non plus d'insister sur cette dimension de la perversion, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la perversion, des pervers, etc. Et en fait, si j'y réfléchis, si j'y pense, c'est pas du tout ce qui me viendrait à l'esprit concernant Nabokov. Même s'il y a cette toujours dimension un peu de ruse et ça lui déplaît pas, notamment dans Lolita, évidemment. Mais non, je crois que c'est la dimension de la perversion, c'est pas ce qui est central. Ce qui est central, c'est le jeu, et le jeu avec les formes et avec un certain cryptage aussi, qui on va en reparler, mais justement qu'il ne veut pas qu'on décrypte.
Ouais. Alors le conte de fées, on le trouve dans Madame Bovary, dans Anna Karenine, hein, selon Nabokov bien entendu, également dans Don Quichotte. Où est-ce que on voit du conte de fées chez, par exemple, Cervantes, selon Nabokov, puisqu'il en parle beaucoup dans ses cours, Cécile Gilbert.
Je vous avoue que je me souviens plus très bien de son cours sur Nabokov. Il faut pas que je dise à l'auditeur quand même que Don Quichotte, que j'ai écrit cette préface il y a une dizaine d'années, que j'ai pas relu l'intégralité des cours. Je me souviens qu'il avait détesté Don Quichotte et puis qu'il y était revenu. Parce qu'en fait, je pense que c'est la féerie, c'est l'âme de Don Quichotte. C'est ce côté, évidemment, bien connu du chevaleresque, d'une forme d'innocence, de l'enfance, et de cette espèce de... Je pense que Nabokov est toujours sensible au génie de l'enfance.
Ouais. Il y a cette idée quand même dans la féerie que la réalité, elle est beaucoup dans la fiction. La réalité, elle n'est pas forcément dans la description point par point à la Zola de ce que serait le réel. Mais la réalité, elle est précisément dans l'imagination.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, la réalité, comment dire ? La réalité, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la vision que va donner un créateur ou le recréateur que sera le lecteur de ce dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme Proust, hein, finalement. C'est la qualité, elle vient dans la vision, et c'est une question comme ça de... Il n'y a pas un décalque. L'œuvre d'art n'est pas évidemment ce miroir promené sur une réalité. C'est vraiment...
Pourtant, Stendhal faisait de belles œuvres d'art.
Mais finalement, c'est très différent. C'est des qualités de vision. Et il y a autant de vision, évidemment, de recréation du monde. En fait, pour m'expliquer plus clairement, parce que là, je sens que ça... C'est-à-dire que vraiment, pour Nabokov, le créateur est un démiurge, quoi. Il part ex nihilo des choses et le lecteur doit aussi recréer cette vision par ses capacités de lecteur qui doivent être évidemment au-delà de savoir lire.
On va développer tout ça à l'aide justement de quelques extraits de ces cours. Le premier nous est lu par Pierre-Marie Baudouin, c'est au sujet de Madame Bovary de Flaubert.
C'est à nouveau un chef-d'œuvre. À nouveau un conte de fées que nous allons à présent aborder. De tous les contes de fées de cette série, le roman de Flaubert, Madame Bovary, est le plus romanesque. Sur le plan du style, c'est de la prose faisant ce que la poésie est censée faire. Un enfant à qui vous lisez une histoire vous demandera peut-être « Est-ce une histoire vraie ?» Et si vous lui répondez que non, il en exigera une vraie. Ne persévérons pas dans cette attitude juvénile face au livre que nous lisons. Bien sûr, si quelqu'un vous dit que Monsieur Dupont a vu une soucoupe bleue pilotée par un homme vert passer en sifflant à côté de lui, là, vous demanderez « est-ce vrai ?» Car d'une manière ou d'une autre, le fait que cela soit vrai pourrait affecter toute votre existence, pourrait entraîner pour vous une infinité de conséquences sur le plan pratique. Mais ne demandez pas si un poème ou un roman est vrai. Ne nous faisons pas d'illusions. Gardons bien à l'esprit que la littérature n'a aucune espèce de valeur pratique, sauf pour la personne qui présente la particularité très spéciale de vouloir être professeur de lettres. La jeune Emma Bovary n'a jamais existé. Le livre Madame Bovary existera à tout jamais. Un livre vit plus longtemps qu'une jeune femme. Le livre traite de l'adultère et il contient des situations et des allusions qui ont choqué le régime prude et philistin de Napoléon III. Le roman a même été cité en justice pour obscénité. Imaginez un peu cela. Comme si l'œuvre d'un artiste pouvait jamais être obscène. Je suis heureux de vous dire que Flaubert a gagné son procès. Cela se passait il y a exactement 100 ans. aujourd'hui, de nos jours. Mais ne nous éloignons pas du sujet.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Restons dans le sujet, en effet, c'est-à-dire dans les cours de Nabokov avec vous, Cécile Guilbert. Quelle était, selon vous, leur importance pour lui, puisqu'on sait qu'il n'a pas souhaité les publier. C'est sa femme qui a pris cette initiative. Est-ce que vous avez une idée là-dessus ?
Oui, ben je pense que évidemment il n'a pas voulu qu'on les publie parce que c'était pas des œuvres d'art formellement abouties. Évidemment, c'était des conférences et c'était des cours qu'il faisait pour gagner sa vie et aussi à mon avis pour se réassurer lui-même. Parce qu'il faut ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Nabokov arrive aux États-Unis, il va vivre 20 ans aux États-Unis, être naturalisé américain et retrouver une forme de vie confortable et agréable. Ce qui consiste en fait grosso modo à pouvoir écrire tranquillement et aller chasser les papillons l'été. Il est dans une position difficile et compliquée pour lui parce que il est devenu un grand écrivain russe en Russie et quand il était émigré en Allemagne où il écrivait en russe et puis personne en fait ne le sait parce qu'il n'a pas été traduit et donc il arrive sur les campus, ses collègues ne savent pas qui il est.
Et ses livres en Russie sont-ils diffusés
parce que alors non, ses livres sont pas du tout sont interdits en Russie, ils ne circulent qu'à travers les cercles d'émigrés russes qui sont en Europe, en France, à Berlin, dans les autres pays d'Europe. Il est devenu un écrivain connu sous le pseudonyme de Cyrine et il a écrit notamment Le Don, qui est son dernier grand roman russe, qui est une sorte de petit chef-d'œuvre. Et puis il en a écrit d'autres, hein, Le Défense Lougine, enfin bon, beaucoup de romans déjà. Mais personne ne le sait et personne ne peut le lire. Et lui s'apprête en fait à changer de langue, ce qui est pour un écrivain qui est arrivé à un certain niveau déjà dans sa langue natale, c'est pas rien, c'est même considérable et c'est même unique. Il s'apprête à changer de langue et j'ai l'impression que ses cours de littérature lui servent en fait à réviser lui-même, c'est classique d'une certaine façon, et à se préparer à ce saut que j'ai appelé la reconquête augmentée de son sceptre, en fait en anglais, et qui va passer effectivement à travers l'écriture de Lolita, qu'il commence à écrire dès 48.
Donc c'est aussi une manière pour lui de travailler.
Voilà, c'est une manière pour lui de travailler, et c'est aussi une manière pour lui d'aller au cœur de ce qui l'intéresse. Et le cœur de ce qui l'intéresse, c'est effectivement la prose poétique. L'extrait que vous venez de citer concernant Madame Bovary est tout à fait clair, il le dit.
Il faudra peut-être revenir un petit peu plus tard justement sur l'aspect poétique qui est en effet très important en ce qui concerne ces cours. J'aurais voulu qu'on reste un tout petit peu d'abord le professeur et sur les cours en eux-mêmes. Dans le volume chez Bouquin que vous avez donc préfacé, il y a des facsimilés où on voit les notes. Ça veut dire que ce qu'on lit a été un petit peu retravaillé par rapport aux notes qui étaient jetées sur la page. Est-ce que c'était très rédigé par exemple, ce qu'il lisait.
Mais ça finissait par être très rédigé parce qu'en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Nabokov faisait toujours le même cours. Ça ne bougeait pas, c'était immuable et c'était immuable à tel point que sa femme pouvait le remplacer au pied levé quand il était malade.
Donc il lisait alors.
Et d'une certaine façon, il lisait, mais il connaissait tellement le sujet que c'était comme si, bon, il n'avait plus besoin de lire ses notes. Mais en fait, il faisait un show. Il faisait un show et alors, tout était extrêmement orienté et il donnait vraiment l'interprétation qui était la sienne. Et c'est-à-dire que c'était un professeur très particulier parce que personne évidemment n'a enseigné de la façon dont Nabokov enseignait. C'était pas du tout dans les normes, si vous voulez, des cours. Il avait à la fois une forme de mépris et en même temps beaucoup d'enthousiasme pour essayer de convaincre ses étudiants que ce qu'il leur racontait était formidable. D'abord, il faut dire aussi une chose qui est très importante, c'est que pour lui, il n'y avait pas de grands écrivains, il y avait seulement des grands livres ou pas. C'est-à-dire que c'était pas du tout quelqu'un qui fétichisait un auteur. Non, pour lui, on vraiment jugeait texte sur table en fonction des livres.
Par exemple, certains livres de Joyce.
Voilà.
C'est l'exemple comme typique. Comme Finnegan's Wake, il considérait que c'était.
Ulysse, c'est génial, mais Finnegan's Wake, c'est pas bon.
Alors comment il justifie ça?
Ça, c'est très subjectif, c'est d'une mauvaise foi effrayante. C'est vraiment, c'est une position d'autorité assénée comme ça. Et à l'inverse, pareil, pour Kafka, il considérait que la métamorphose était le chef-d'œuvre. Mais après, on pouvait faire exactement la même chose avec Tourguenieff, avec Tchekhov, avec. Et alors, il se cantonnait à un continent 19e siècle. hormis Don Quichotte qui était une commande spéciale, c'était toujours le 19e siècle. Jamais d'œuvre du 18e, du 17e, même du 20e. Alors le 20e, il était d'une férocité abominable pour tous les auteurs qui étaient ses contemporains.
Est-ce que par exemple, il a parlé un jour de Faulkner? Est-ce qu'il a parlé de tous ces grands écrivains qui étaient ses compatriotes aussi à
justement, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il vivait aux États-Unis et alors il a démolissait Hemingway, qu'il trouvait faible et sûrement qu'il se faisait prendre par ce style trop simple. Non, jamais parlé d'Hemingway, ni de Fitzgerald, enfin bon. Et tous ses contemporains engagés, etc. Alors ça, c'était le comble de l'abomination, parce que, bon, on y reviendra, mais pour lui, un auteur n'a pas essayé d'influer sur la conscience de ses contemporains. Il doit être un pur artiste, etc.
Ouais, donc Sartre et tout ça, ça ne l'intéressait pas.
Alors, il faisait des tas de schémas. Il était très original, parce qu'il avait détecté dans tous les livres dont il parlait des thèmes qu'il arrivait comme ça à mettre en forme. Il faisait des schémas au tableau pour expliquer comment était... C'était très bizarre et très drôle, et ça amusait beaucoup les étudiants. Dessiner le compartiment qui permet à Anna Karenine de voyager, de dessiner, essayer de savoir ce qu'était l'insecte qui volait autour d'une lampe, quel est le type de scarabée en lequel est transformé Grégoire Sansa dans la métamorphose, etc.
En quoi c'est important pour faire une grande
œuvre ? Je ne sais pas, c'est une façon de visualiser les choses, mais j'avoue que ça m'a toujours laissé extrêmement perplexe. Et si vous voulez, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la façon dont il faisait ses cours, pourquoi il les faisait. Qu'est-ce qui était caché derrière? Ça me fascine. Mais si vous voulez, si je dois faire une confidence aujourd'hui, c'est que les cours de Nabokov en soi n'ont jamais complètement fasciné en termes de littérature. Ce qui me fascine, c'est son rapport, lui, à ses cours, et qu'est-ce que ça signifie dans son existence, et comment il oriente l'interprétation des œuvres, et comment surtout il interdit qu'on interprète certaines œuvres. Parce qu'à mon avis, les cours, c'est les auteurs et les livres dont il parle dans ses cours sont le pur miroir de lui-même. Et donc, il est directement intéressé, en tant qu'auteur, à ce qu'on ne donne pas certaines clés d'interprétation. Donc, il les confisque à ses élèves. C'est ça que je trouve très intéressant.
Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est un professeur extrêmement narcissique qui, finalement, ne fait cours que pour lui, devant un public qui doit être soumis.
Je pense qu'il essaye de faire comprendre aux étudiants, parce que ça, c'est quand même la part noble et généreuse de sa nature. Il essaye de faire comprendre en quoi certaines œuvres sont des chefs-d'œuvre esthétiques et comment ils sont élaborés. Mais en fait, je pense que d'une certaine façon, il considère que la plupart des étudiants, ça leur passe au-dessus de la tête. Et en fait, il fait cours que pour les quelques personnes toujours minoritaires qui sont intéressées par ça, parce qu'il considère effectivement que l'art est quelque chose qui intéresse une minorité de personnes.
Ça, c'est une résurgence de son enfance aristocratique, d'une naissance aussi de la fin du 19e siècle. Enfin, il faut avoir ça en tête, peut-être.
C'est une conséquence, si vous voulez, à la fois d'une éducation, de l'exception qu'il constitue lui-même, quoi, à vrai dire.
Dans une lettre à sa maîtresse, Flaubert faisait la remarque suivante : comme l'on serait savant si l'on connaissait bien seulement 5 à 6 livres. Lorsqu'on lit, il faudrait remarquer et savourer les détails. Il n'y a rien à redire au clair de lune des idées générales lorsqu'il intervient après que l'on a recueilli avec amour tous les petits éclats de soleil du livre. Si l'on commence par des généralités toutes faites, on commence par le mauvais bout et l'on s'éloigne du livre avant d'avoir commencé à le comprendre. Rien n'est plus fâcheux ou plus désobligeant pour l'auteur que de se mettre à lire, par exemple, Madame Bovary avec l'idée préconçue que c'est une dénonciation de la bourgeoisie. Nous ne devrions jamais perdre de vue que toute œuvre d'art est toujours création d'un monde nouveau, en sorte que la première chose à faire est d'étudier ce monde nouveau d'aussi près que possible, en l'abordant comme quelque chose de flambant neuf, n'ayant aucun lien évident avec les mondes que nous connaissons déjà. Et lorsque ce monde aura été étudié de près, et seulement alors, nous examinerons ses liens avec d'autres mondes, d'autres branches du savoir. Le temps et l'espace, la couleur des saisons, le mécanisme des muscles et des esprits, tout cela, pour l'écrivain de génie, pour autant que notre intuition dise vrai, et je crois qu'elle dit vrai, ne constitue pas un donné de notions traditionnelles, susceptibles d'être pêchées au tourniquet des vérités publiques, mais une série de découvertes uniques, que les grands artistes ont appris à exprimer de leur manière personnelle et unique. Aux auteurs mineurs reste l'ornementation du lieu commun. Ceux-là n'ont aucun souci de réinvention du monde. Ils se contentent de tirer ce qu'ils peuvent d'un ordre donné de choses, de traditionnels schémas romanesques. Les diverses combinaisons que ces auteurs mineurs réussissent à produire à l'intérieur de ces limites données peuvent être tout à fait amusantes, gentilles et éphémères, parce que les lecteurs mineurs aiment à reconnaître leurs propres idées sous un plaisant déguisement.
C'est pas vrai, quand vous avez 20 ans, vous savez pas ce que vous aimez. Vous savez des bribes. C'est pourquoi l'amour est une solution, mais à la condition qu'il soit vrai.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Être un bon lecteur, ça s'apprend. Et c'est ça aussi l'un des enseignements de ces cours de Nabokov, Cécile Guilbert. C'est ça aussi qui est important à comprendre.
Oui, c'est ça qu'il veut enseigner à ses étudiants, savoir lire. Et savoir lire, évidemment, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de décortiquer très finement, phrase à phrase, je dirais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'une œuvre d'art, après tout, c'est progression phrase à phrase en littérature. Donc il n'y a rien qui le dégoûte plus que les gens qui lisent ou pour se divertir ou pour s'informer sur des divers sujets, etc. Ça l'intéresse pas. Enfin, pour lui, c'est pas ça la lecture. La lecture, c'est vraiment jouir de l'art. Et donc c'est parfaitement symétrique avec ce que doit être un écrivain. Un écrivain n'est pas là pour donner des idées générales, pour orienter l'opinion de ses contemporains, pour divertir, non, il est là pour, en tant qu'enchanteur, puisque c'est le degré le plus haut pour lui de ce que peut être un auteur, un magicien, il est là pour finalement faire des tours de magie avec des mots, des phrases.
Donc quand ces étudiants, avec leur sensibilité propre, leur histoire propre, analysaient de leur manière à eux une œuvre, évidemment, ils se faisaient renvoyer dans les cordes. Qu'est-ce que vous pensez quand même de cette façon très rigide voir l'analyse littéraire?
Parce que, indépendamment du peu de liberté qu'il laissait à ses étudiants, parce qu'il entendait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il entendait que les étudiants restituent dans leur copie exactement ce qu'il avait dit. Donc, d'une certaine façon, c'était presque comme du par cœur, quoi. C'est un peu grotesque. Mais, indépendamment de l'empêchement de leur liberté, si vous voulez, il proscrivait toutes les interprétations qui sont très légitimes et qu'on peut donner en matière littéraire, notamment grâce aux clés biographiques d'un auteur. Alors, bon, tout le monde sait qu'il détestait la psychanalyse, qu'il était hors de question d'interpréter les choses à l'aune de Freud, qui traitait de charlatan. Mais toutes les clés biographiques, tous les procédés intertextuels de cryptage par lesquels un auteur utilise sa propre vie, sa propre biographie, le jeu sur les noms, l'onomastique, etc., tout ce qu'un auteur, et même Flaubert, le roi du narrateur impersonnel, utilisait, il n'en était pas question pour Nabokov. Par exemple, je donne un exemple gros comme une maison, le conflit oedipien entre Kafka et son père, ce gros problème dont on peut quand même imaginer qu'il pourrait permettre d'interpréter la métamorphose et le rapport compliqué de Kafka avec sa famille, l'autorité paternelle, etc. Pour Nabokov, il était hors de question de rameuter ce type d'interprétation.
Mais est-ce que c'est pas une limite quand même ce lecteur si exigeant justement qu'était Nabokov, puisque la lecture doit être précise selon lui, mais toujours dans un certain cadre finalement. Lui qui aussi refusait par ailleurs qu'on lise par des grilles de lecture, il y a quelque chose de paradoxal.
En fait, on peut comprendre cette limite qui semble aberrante uniquement dans la mesure où on comprend que ce pacte de lecture intéresse directement la propre interprétation qu'on pourrait donner des livres de Nabokov lui-même. C'est pour ça que je dis que cet exercice de professorat, en fait, plus que narcissique, je dis solipsiste, parce qu'en fait, il est comme dans une position en miroir par rapport aux auteurs et aux livres qu'il commente. Et il veut absolument pas qu'on interprète quoi que ce soit dans ses livres du point de vue de sa biographie ou de sa vie privée. Et c'est tellement énorme que j'ai fait une découverte quand j'écrivais cette préface qui m'a stupéfié. C'est que il y a un livre très connu de Nabokov qui s'appelle Strong Opinions, qui a été traduit sous le terme d'intransigeance, qui sont des interviews qu'il a données une fois qu'il était devenu cet auteur ultra célèbre, non seulement l'auteur de Lolita, mais l'auteur de Ada, qui vivait à Montreux et qui était devenu cet auteur polyglotte mondialement célèbre. Et évidemment, il était tellement célèbre que sans arrêt, on lui demandait des interviews. Et il détestait dépenser son temps à donner des interviews, donc il demandait toujours, et ça il avait raison, puisqu'elles allaient être publiées par écrit, de répondre par écrit. Et donc il se faisait communiquer des questions et répondait par écrit. Or, qu'est-ce qu'il répondait par écrit à la plupart des questions qu'il lui posait ? Des phrases directement tirées de ses cours de littérature. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ses cours de littérature lui avaient servi à forger une espèce de carapace, une espèce de doxa à l'usage de la presse, pour lesquels il n'avait pas beaucoup d'estime, évidemment, parce qu'il considérait que la presse, les journalistes littéraires comprenaient rien à l'art, en fait. Il était très élitiste, hein. Il faut bien voir ça toujours chez Nabokov, un élitisme, mais qui aujourd'hui serait, mais insupportable.
Oh, il y a quelque chose d'antimoderne, même.
Une arrogance, qui aujourd'hui, mais serait, mais complètement détestable, hein, quand on voit l'état, des mentalités aujourd'hui et comment les choses ont évolué par rapport à cette position de surplomb, si vous voulez. Oui. C'est pas seulement la position de surplomb du professeur, c'est que outre cette dimension verticale, comme on dit aujourd'hui, il y a une arrogance et il y a un élitisme extraordinaire, enfin extraordinaire au sens qui sort de l'ordinaire.
Ça lui a peut-être coûté le Nobel d'ailleurs, parce que sûrement. Finalement il ne l'a pas eu. On a quand même beaucoup pensé à lui pour ce prix.
Oui, en plus il a tellement tapé sur d'autres prix Nobel et il est tellement singulier et isolé par rapport à tous les autres, quoi, que peut-être, oui, sans doute.
Tout semble vide à présent, sans toi. Sans toi, je m'ennuie.
Alors tout de même, il faut rappeler que ces cours sont à bien des égards passionnants, malgré ce que vous en dites, hein, Cécile Guilbert. Il y a un de ces étudiants dont vous relevez le témoignage qui disait quand même c'était un professeur d'exception. Je le cite. « Je ne me rappelle pas avoir pris la moindre note, c'eût été un peu comme gratter du papier, tandis que Michel-Ange expliquait comment il avait conçu et peint la voûte de la chapelle Sixtine. De toute manière, je n'ai pas le souvenir d'un cours au sens conventionnel du mot. Il nous faisait partager son activité et son expérience créatrice. Jamais festin plus roboratif ne fut proposé dans l'amphi d'un campus universitaire et il était tout aussi impossible de le réduire à des notes que de transformer une Rolls-Royce en boîte de conserve à l'aide d'un marteau de tapissier. C'était quand même beaucoup plus aussi qu'un simple professeur.
Cécile. Bien sûr que c'est un professeur extraordinaire et je profite là de la parole que vous me donnez pour rectifier une chose. Quand je dis tout à l'heure que je ne suis pas dingue de ses cours, c'est que étant auteur à mon niveau, qui n'est pas celui de Nabokov évidemment, je ne pourrais pas supporter qu'on m'assène compte sur des auteurs que je connais très bien, si vous voulez, ce qu'il a séné à ses étudiants. C'est uniquement cette position-là que je... Mais évidemment que c'était un professeur extraordinaire, parce que doté d'un enthousiasme, en plus il était trilingue, donc il lisait tout ce qu'il avait lu, il l'avait lu depuis l'enfance dans la langue d'écriture. Il lisait Madame Flaubert Proust en français, il lisait évidemment les Russes en russe, les Anglais en anglais, etc. Donc il avait une capacité linguistique extraordinaire. C'était un traducteur extrêmement exigeant. Il a beaucoup travaillé lui-même sur ses textes, retraduits du russe à l'anglais et réciproquement et remaniés, etc. Et donc il y a des cours fantastiques sur l'art de la traduction, ce qu'il appelle l'art de la traduction, parce que pour lui, un traducteur doit réunir des qualités.
Il expliquait aussi que Pouchkine, par exemple, ne pouvait pas être bien compris par les Français parce que c'était impossible de traduire tout ce qu'il y avait pour un Russe
absolument.
Dans la langue russe absolument. Chez Pouchkine en français.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et ça je suis heureuse d'en parler, c'est qu'au moment où il faisait ses cours pendant 20 ans aux États-Unis, certes, il a fait cette mue linguistique et à travers l'écriture de Lolita qui lui a demandé un labeur effroyable, mais il a aussi fait quelque chose d'énorme qu'on ne sait pas, c'est qu'il a traduit Eugène Onegin de Pouchkine en anglais, bon, ce qui était déjà quelque chose, mais surtout, il a laissé un commentaire de centaines, qui fait plus d'un millier de pages, sur vers à vers, mot à mot, qui est en fait son grand testament artistique. Mmh. Et ça, il l'a fait à ce moment-là. Donc, il a complètement refusé aux origines de sa poétique, de sa langue, à travers ce gros travail sur Pouchkine.
Alors, on peut peut-être raconter un petit peu, Cécile Guilbert, pour rentrer dans la mécanique de ses cours, comment il envisageait l'analyse littéraire. C'est peut-être pas la manière dont aujourd'hui, à l'université, on analyserait des œuvres. Lui, il avait choisi une méthode qui était finalement celle du commentaire linéaire, de larges extraits qu'il lisait au pupitre en s'interrompant pour attirer l'attention de ses auditeurs sur des détails techniques. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un cours qui vous plaît particulièrement pour dire un petit peu comment c'était organisé ?
Bah, il y a les cours sur Proust, évidemment, ou les cours sur la Dame opticien. En fait, quand je dis le cours sur Proust, c'est pas sur Proust, c'est à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Enfin non, c'est du côté de chez Swann, pardon. Parce qu'en fait, c'est toujours sur une œuvre. Et évidemment qu'il ne peut prendre que du commentaire ligne à ligne, parce qu'en fait, il est obligé de détailler les procédés littéraires et comment s'organise le lexique, la syntaxe, etc. Et
que si... Mais c'est pas problématisé comme on ferait aujourd'hui.
Mais non, parce que si on problématisait comme on fait aujourd'hui, si vous voulez, on irait tirer des idées générales d'un texte, on essaierait d'en dégager un sens, un contexte, une historicité, et tout ce que déteste Nabokov, en fait. Mmh. Il faut vraiment prendre phrase à phrase et voir comment s'organise un texte.
Donc en général, ça commence par la biographie de l'écrivain en quelques lignes, puis le résumé du roman en quelques lignes. Par exemple, je prends Ulysse de Joyce, donc c'est quand même 1000 pages, hein, Ulysse de Joyce. Il le résume de la façon suivante. Ulysse décrit une seule journée, le 16 juin 1904, un jeudi, un seul jour dans la vie d'un certain nombre de personnages dont les chemins se croisent ou divergent, qui vont à pied ou à cheval, qui parlent, qui rêvent, qui boivent, et traversent un certain nombre de péripéties physiologiques et philosophiques, mineures ou majeures, au long de cette seule journée et des premières heures du matin suivant. Voilà pour les 1000 pages d'Ulysse. Et puis après, bon, il présente les personnages et il énonce le thème central, Bloom et le destin. Et puis après, c'est une analyse chapitre par chapitre. Vous avez l'impression, à l'issue de la lecture d'un cours de Nabokov, d'une plus grande lumière sur l'écrivain ? Parce qu'il y a quand même un vrai plaisir à la lecture de ces cours, je trouve. De compréhension.
D'abord, oui, il fait preuve, ce que vous venez de lire montre qu'il fait preuve quand même d'un certain talent de la synthèse et qu'il est capable d'aller voir droit au but ce qui est intéressant et ce qui est important. Donc rien que pour ça, déjà, c'est assez plaisant. En plus, bon, on n'a pas forcément en tête, on n'a pas forcément lu toutes les œuvres dont il parle. Moi, je vous avoue, quand j'ai travaillé sur Nabokov, j'avais jamais lu La Dame opticien, par exemple.
Et on peut lire, du coup, le cours sans avoir forcément connaissance de l'œuvre ?
Bien sûr, mais en même temps, ça peut aussi donner l'envie d'aller voir l'œuvre, évidemment. Certains auteurs russes, alors ils vous dégoûtent aussi largement parce qu'il fait quand même des cours sur des auteurs qu'il déteste pour montrer en quoi ils sont très mauvais, Gorky qui déteste, ou même Dostoïevski, qui pourrait paraître plus étonnant, mais il déteste Dostoïevski.
Et Tolstoï ?
Alors Tolstoï, il y a à prendre et à laisser, si vous voulez, c'est toujours la même histoire, donc Anna Karenine c'est le chef d'œuvre, mais bon, le reste... Il en parle moins.
Allez, Cécile Guilbert, on va continuer à parler avec vous de Vladimir Nabokov et en particulier des cours de littérature européenne qu'il a donné dans les universités américaines. Mais pour l'heure, c'est le moment de la chronique. Elle vous est proposée aujourd'hui par Nathalie Frolov.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nathalie Frolov, professeure de lettres à la Cagne du lycée Louis-le-Grand à Paris. Bonjour à vous Nathalie.
Bonjour Mathieu.
Vous venez nous parler aujourd'hui du roman Feu pâle de Nabokov, dont on n'a pas encore assez parlé justement dans cette série.
Oui, Feu pâle est publié en 1962 et il concentre tous les thèmes qui sont chers à Nabokov. Et il constitue même le roman le plus parfait, jamais écrit, comme l'écrit Brian Bode, qui lui a consacré un livre en fait. Alors ce roman, Feu pâle, se compose de quatre parties. Une introduction d'un dénommé Charles Kimbott, un poème de 1000 vers par un certain John Chade, puis des notes sur ce poème, écrites par Kimbott, et un index qui vient clore l'ensemble. Le lecteur est d'emblée invité, s'il le souhaite, à plusieurs lectures possibles. Il peut bien sûr lire en continu le roman, ou bien il peut aussi en fait aller directement à la fin, comme le propose Charles Kinbotz dans son introduction, y compris dans sa première note, et aller voir à la dernière note du vers 998, qui va dévoiler les conditions très étonnantes de la mort du poète John Shade, et la manière tout de même assez extravagante que Kinbotz, son voisin, et ce qu'il dit ami, prétendument ami, a pu subtiliser le manuscrit du poème de Feu Pâle, ces conditions assez incroyables, puisque ce poème Feu Pâle vient tout juste d'être achevé. Alors, Nabokov invite donc le lecteur à une lecture en désordre, mais c'est parce qu'il fait confiance à son lecteur, comme on l'a vu depuis les jours derniers. En fait, il attend du lecteur déjà des relectures, et puis il attend une lecture dans le détail. Donc, par exemple, il propose, Charles Kinbotz, de l'introduction, qu'on se procure non pas un livre de Feu Pâle, mais deux, pour pouvoir les lire en regard. Ça sera plus pratique, ça permettra d'éviter l'ennui, de feuilleter le livre dans tous les sens. Le lecteur se rend très vite compte que cet appareil critique, en fait, finit par complètement recouvrir le poème de John Shade, son voisin poète et ami. Mais ce roman très étonnant se lit aussi comme un roman policier, parce que les notes sont regroupées à la fin du poème, et en fait, on voit ici que Charles Kinbotz raconte principalement sa propre vie, ou en tout cas, la vie d'un personnage assez mystérieux, le roi d'un pays inconnu, la Zambla. Et en fait, Kinbotz, il raconte ses aventures rocambolesques qui lui ont permis d'échapper à des révolutionnaires. Bon, si je résume, parce que je vais pas non plus tout divulgâcher aux auditeurs, Charles Kinbotz est fou. Il a tous les traits d'un paranoïaque enfermé dans sa folie. Le pays de Zambla n'existe pas. Il est lui-même ce Charles Xavier, ce roi imaginaire de ce pays imaginaire dont on ne peut s'échapper qu'en passant par une entrée secrète d'un placard comme dans les meilleurs contes de fées. On voit que les notes ici qui devaient se limiter à une explication du contexte, à l'illustration d'un parallèle, à l'illustration d'une référence, finissent par constituer un texte en soi qui prend tout son sens au fur et à mesure de l'approche de la fin. Et ce dispositif n'est pas sans évoquer, bien sûr, un des grands maîtres d'une écriture métalittéraire, qui est Laurence Sterne avec Vie et Opinion de Tristram Shandy. Et en fait, je voulais faire un petit détour, pas tellement par Sterne, mais en fait par un écrivain français contemporain qui a réfléchi aussi sur ce que sont les notes. Et je veux parler de Georges Perros.
Alors Georges Perros qui a d'abord été comédien pensionnaire à la Comédie Française et puis écrivain collaborant à la Nouvelle Revue Française.
Oui, alors c'est assez étonnant parce que Georges Perros publie en fait en 1960 ses papiers collés et au tout début, il y écrit une note sur la note. Et il va se déclarer lui-même un faiseur de notes, un vétéré. Il ne veut pas écrire de livres, il se voit plutôt comme un contrebandier de la littérature. Et donc ses notes sont rassemblées dans les papiers collés et il le dit, il voudrait en fait écrire pour un autre écrivain qui sera peut-être moi, mais je n'y tiens pas exagérément, je lui donne des idées, des directives, à lui de faire le tri si bon lui semble. Perros, c'est un petit peu Charles Kinbotz, qui raconte à John Shade les aventures du roi Charles Xavier afin que celui-ci les intègre dans son poème qu'il est en train d'écrire. Mais Charles Kinbotz va être extrêmement déçu quand il va trouver le manuscrit justement de John Shade parce qu'il va voir que John Shade n'a absolument pas intégré tout ce qu'il lui a raconté. Et il va quand même décider de publier Feu Pâle en mettant des notes qui vont raconter tout ce qu'il avait raconté en fait à John Shade et qui n'est pas intégré. Bon, donc on a le sentiment en fait, en lisant Feu Pâle, que Nabokov applique exactement, si je puis dire, les réflexions de Georges Perros. Les notes, en général, elles sont publiées après la mort d'un auteur, comme ici. Et surtout, Perros a cette très belle formule, la note est orpheline, la littérature commence le jour où pour mettre en valeur ce déchet, on se trouve le génie, on prend le temps d'écrire un roman, une lettre, d'entretenir un journal. Feu Pâle, c'est exactement cela. Un roman qui prend toute son ampleur avec les notes. Mais c'est plus qu'une inflation. Nabokov, en fait, nous propose une sorte de livre parfait pour les universitaires, lui-même professeur d'exception, a dû sans doute, pour préparer ses cours, compulser des œuvres d'autres auteurs. Et tous les professeurs apprécient toujours les livres accompagnés d'un paratexte précis qui pourra éclairer tous les aspects qui sont un petit peu énigmatiques dans un livre. Donc ici, on a un parfait pastiche de ce qu'on pourrait appeler une édition savante, qui montre finalement que la littérature n'est toujours que le miroir d'elle-même. Elle se diffracte, elle ne renvoie qu'à elle-même, et cette mise en abîme, en fait, est consubstantielle. Et Charles Kinbotz l'explicite très clairement à un moment où il dit qu'il offre un volume de Proust à la femme de Shade, qui aurait, soi-disant, prononcé une phrase qui était déjà présente dans le volume de Proust. Donc Nabokov, en fait, avec Feu Pâle, nous ouvre le laboratoire de l'écrivain. John Shade écrit sur des fiches, exactement comme lui. Il nous montre ainsi que toute édition savante est bien sûr passionnante par son érudition, mais elle apporte surtout, je dirais, un commentaire sur une œuvre qui ne peut pas l'épuiser. Et ce commentaire, du coup, va rester fascinant en lui-même. Et Charles le dit dans une de ses notes, en fait, la réalité n'est ni le sujet, ni l'objet de l'art. En ce sens, la littérature, qui crée sa propre réalité spéciale, que l'on ne peut jamais vraiment comprendre, est ici représentée. Donc Feupal montre cette réalité spéciale et nous la dérobe en même temps.
C'est peut-être un écrivain pour écrivain, finalement, Nabokov, Nathalie Frolov. En un mot, vous les connaissez, les cours de Nabokov?
Alors, j'ai feuilleté, j'ai regardé. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait exactement un parallèle avec Feupal. On a l'impression que, à côté de la préparation de ses cours, en fait, il a eu besoin de recréer comme ça exactement ce qu'il avait dû compulser en bibliothèque pour préparer ses cours. Donc, c'est assez extraordinaire, en fait.
Voilà, des choses qu'il faut lire ensemble. Merci beaucoup, Nathalie Frolov, pour cette analyse du roman Feupal de Vladimir Nabokov. À très bientôt. La compagnie des auteurs que vous écoutez, vous êtes bien sur France Culture. Dernier moment de notre série nabokovienne. Elle s'achève par une émission consacrée à ces célèbres cours de littérature donnés dans des universités américaines et publiés en France dans la collection Bouquins des éditions Robert Laffont, avec une préface de Cécile Gilbert, notre invitée.
On peut considérer l'écrivain selon trois points de vue différents. On peut le considérer comme un conteur, comme un pédagogue et comme un enchanteur. Un grand écrivain combine les trois, conteur, pédagogue, enchanteur. Mais chez lui, c'est l'enchanteur qui prédomine et fait de lui un grand écrivain. Lorsque nous nous tournons vers le conteur, c'est pour nous divertir, rechercher une excitation mentale de l'espèce la plus simple, une participation émotionnelle, le plaisir de voyager à travers quelques régions éloignées dans l'espace ou dans le temps. Un type d'esprit légèrement différent, mais pas nécessairement plus élevé, recherche en l'écrivain le pédagogue, le propagandiste, le moraliste, le prophète, selon l'ordre croissant. On peut attendre du pédagogue non seulement un enseignement moral, mais encore des connaissances directes de simples faits. J'ai connu, hélas, des gens qui ne lisaient les romanciers français ou les romanciers russes que pour y glaner des renseignements sur la façon de vivre dans le gai Paris ou la triste Russie. Enfin, et par-dessus tout, un grand écrivain est toujours un grand magicien. Et c'est là que nous atteignons l'aspect véritablement passionnant de la chose, lorsque nous nous efforçons de saisir la magie propre à tel génie et d'étudier le style, les images, la construction de ses romans ou de ses poèmes. Les trois facettes du grand écrivain, magie, récit, enseignement, tendent à fusionner en une seule impression de rayonnement, unifiée et unique. La magie de l'art pouvant être présente dans l'ossature même du récit, dans la moelle même de la pensée. Il y a des chefs-d'œuvre de pensée précise, limpide, structurée, qui font vibrer en nous le sens artistique aussi fortement qu'un roman tel que Mansfield Park ou n'importe quel débordement d'imagerie sensuelle chez Dickens. Il me semble qu'un bon critère pour juger de la qualité d'un roman serait, en fin de compte, que l'on y décèle étroitement mêlé la précision du poète et l'intuition de l'homme de science.
Un bon écrivain, c'est donc à la fois un homme de science et un poète. Parlons justement du poète Cécile Gilbert, parce que le professeur Nabokov ne cesse de répéter à ses étudiants que tous les chefs-d'œuvre dont il parle sont en réalité de la poésie. Comment le comprenez-vous ?
Je comprends que la poésie, enfin c'est comme si c'était recueilli l'héritage du romantisme allemand, dont il parle jamais d'ailleurs. C'est que la vraie poésie, c'est de la prose pour lui, c'est de la prose poétique.
Il n'y a pas de vraie et de fausse poésie.
Non, mais il parle jamais rarement de poètes qui écrivent en vers, si vous voulez, dans les formes poétiques.
Pushkin, du coup.
Oui, alors bon, Pushkin, c'est la matrice russe, donc bon, c'est un petit cas à part, si vous voulez, mais pour lui, la poésie passe par la prose. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et d'ailleurs, la brillante chronique que nous avons entendue montre bien la sophistication cérébrale aussi de ces dispositifs narratifs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois la précision du poète, l'intuition de l'homme de science, la sensibilité extrêmement aiguë et en même temps une cérébralité très très forte.
Sauf dans quand même Lolita où on a l'impression que peut-être voulait-il obtenir un vrai succès public, je ne sais pas, mais il y a tellement de niveaux qu'on peut lire aussi Lolita comme étant quelque chose qui se cantonne à la narration.
Bah, je crois pas tellement, parce qu'en fait, il a semé Lolita de toute une série de jalons qui échappent en général à la vigilance du lecteur.
Qui échappent à la vigilance du lecteur, mais ça n'empêche pas le plaisir de la lecture.
Et qui sont disposés très stratégiquement, et en fait, il y a toujours comme ça. Il a la science, il sait exactement quel effet produire à quel moment. Tout ça est très prémédité. Donc c'est vraiment des constructions précises, préméditées, rusées. Donc ça, c'est quand même très cérébral et très frappant. Et en même temps, il y a aussi cette sensibilité extraordinaire du poète, précisément.
Alors, le poète, il le lit un petit peu partout. Évidemment, chez Flaubert, il dit que Madame Bovary, c'est de la prose faisant ce que la poésie est censée faire. Au sujet de Stevenson aussi, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, il dit que c'est une fable qui tient davantage de la poésie que de la prose. Vous le voyez, vous aussi, que c'est d'abord de la poésie, ce livre ? C'est pas évident, si ?
Non, c'est pas évident, mais c'est très personnel, c'est tout ce qu'il dit en fait. C'est toujours très ramené à lui-même, quoi. C'est pas une généralité dont on pourrait dire. C'est comme ça qu'il le perçoit et il assène les choses comme il les perçoit. Et certes, il veut pas qu'on les, enfin, d'une certaine façon, on peut pas les percevoir autrement. Enfin, de toute façon, ses étudiants ne pourraient pas restituer ça autrement.
Donc ça nous amène, je crois, Cécile Guilbert, à l'extraordinaire singularité de Nabokov, à la fois dans ses analyses littéraires, mais aussi dans sa personne à lui. On peut peut-être redire que quand il était enfant, il avait des dons exceptionnels. Alors il ne faut pas non plus juger de la singularité des gens uniquement à travers leurs dons, mais rappeler tout de même que c'était un enfant assez hors norme.
Oui, c'est très important de rappeler ça, parce que justement dans sa, dans son talent, dans son don poétique, il y a quelque chose qui s'est découvert et qui s'est forgé très tôt dans l'enfance. Et il faut aussi parler absolument, puisqu'on a parlé de l'homme de science et qu'on a parlé du poète, il faut absolument aussi parler de son rapport à la nature et de ce qu'il a perçu dans la nature, en fait. Car quand il était enfant, s'ébrouant dans les domaines familiaux, à la campagne, etc., où il avait une grande indépendance et il avait beaucoup de liberté, ses parents lui laissaient beaucoup de liberté, il était extrêmement gâté par ses parents qui avaient compris qu'il était doué, qu'il avait du talent, donc effectivement... Il herborisait, il chassait les papillons, il s'intéressait à tout ce qu'il voyait, et surtout aux effets de lumière, par exemple, dans les branches, dans les eaux, etc.
Il dit qu'à 3 ans, il a découvert son moi sensoriel en observant les reflets éclatants d'un œuf de cristal.
Oui, ça c'est un souvenir très fort au début de Autre rivage, qui est son très beau livre de souvenirs. Très jeune, il a été sensible aux effets de lumière, de diaprure, de translucidité des choses. Et il avait, prétendait-il, un autre don qu'on retrouve beaucoup dans ses livres, parce que beaucoup de métaphores sont construites sur ces analogies, si vous voulez, des correspondances sensorielles. Et il entendait des mots en couleur, par exemple.
Ça, c'est de la pure poésie. Précisément.
Oui, mais alors il était capable, un peu comme dans le sonnet des voyelles de Rimbaud, si vous voulez, d'associer à certains mots certaines couleurs, le violet, le rouge. Alors ça, c'est l'audition, comment il appelle ça, polychrone. Et alors, quand on a ça en tête et qu'on lit Nabokov, on voit beaucoup de métaphores dans beaucoup de livres où il y a ces phénomènes, si vous voulez, des correspondances baudelairiennes aussi entre les sons, les sens qui se répondent. Hein. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'effectivement d'assez singulier, qui expliquait, enfin, en tout cas, Nabokov expliquait comme ça son rapport à toutes les questions qu'il s'est posées toute sa vie. Est-ce que la nature imite l'art ou est-ce que c'est l'art qui imite la nature? Et en fait, finalement, le magicien, si Dieu est un magicien, alors Dieu, bon, il n'a pas du tout de rapport religieux, de foi, si vous voulez, mais il imagine bien qu'il y a quand même un démiurge qui a créé la nature et que finalement, si Dieu, cette puissance a créé tous ces enchantements qu'on peut trouver dans la nature, l'auteur, le créateur, l'artiste est lui aussi ce dieu qui va pouvoir créer ex nihilo, et non pas reproduire, hein, créer ex nihilo le même type d'enchantement et de féerie. On revient à ce qu'on disait au début.
Alors, s'il est singulier, c'est également dans tous les domaines de sa vie, y compris sa manière de penser la politique. Bon, on a dit tout à l'heure que la littérature politique ne l'intéressait pas et on a expliqué pourquoi. Mais on peut aussi rappeler que lui, il était politiquement à la fois tout et à la fois rien. On peut pas dire vraiment qu'il est réactionnaire. Il n'était pas communiste, il n'était pas fasciste, il n'était pas collabo. On a l'impression que tout lui est finalement un peu égal et ça crée aussi quelque chose de très singulier et en même temps un très léger malaise dans la société démocratique d'aujourd'hui.
Bah, en fait, quand il n'est pas tout ou rien, en fait, il est un libéral. Son père était un libéral qui était quelqu'un qui était opposé au tsarisme tout en étant un aristocrate et qui était un juriste. Donc Nabokov, c'est très simple, il est pour la liberté d'opinion, pour la liberté d'expression, contre la cruauté, contre l'arbitraire. Il a connu particulièrement bien tous les régimes totalitaires des années 30, qu'ils soient staliniens ou fasciste ou nazi. Son père a été assassiné par un extrémiste de droite, donc on ne peut pas le leurrer du point de vue de l'idéologie. Et par ailleurs, par tempérament personnel, formation, éducation et tutti quanti, si vous voulez, c'est quelqu'un qui se défie extraordinairement des groupes, des communautés, des appartenances. C'est un individualiste total et radical.
Qu'est-ce qui lui déplaît dans les communautés?
Ah bah c'est la loi commune, c'est le groupe, c'est la pression du groupe, parce qu'un groupe c'est plus qu'une somme d'individus, c'est une logique qui se met en... Et il a toujours été très sensible, si vous voulez, à l'individu isolé, seul, fragile, menacé, le dissident, celui qui l'excentrique, le libertin, comme on pourrait dire, au sens de celui qui...
Voilà, lui qui ne l'était pourtant pas.
Voilà, mais libertin au sens de celui qui s'éloigne de la norme, etc. Donc, toute son œuvre manifeste ça. Il a quand même écrit beaucoup de fictions antitotalitaires, hein, quand même, mine de rien, Brisure à Senestre, L'extermination des tyrans. Alors certaines dirigées explicitement contre l'extrême droite ou l'extrême gauche, etc. Et puis d'autres plus génériques, en fait, parce que cette férule, si vous voulez, du groupe, du totalitarisme hard ou soft, finalement, il le ressent aussi aux États-Unis. Il défend évidemment extraordinairement les États-Unis, qui sont un pays d'accueil, mais il n'est absolument pas dupe de cette espèce de dictat mou de la consommation, du conformisme, du philistine, ce qu'il appelle le philistinisme, de la mode, des opinions communes. Alors, évidemment, quand on a connu la violence d'un régime totalitaire, évidemment, c'est toujours gênant de dire que dans un régime libéral, démocratique, comme les États-Unis ou l'Europe, on subit aussi quelque chose qui serait contraignant.
Mais la Suisse, alors, c'était une
synthèse. Voilà, la Suisse est neutre.
vous avez travaillé sur Guy Debord, Cécile Guilbert. Qu'est-ce que vous pensez du rapport qu'aurait pu avoir quelqu'un comme Nabokov avec ce que Guy Debord décrit comme la société du spectacle?
Justement, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce que Debord appelle le spectaculaire concentré, c'est-à-dire le dictatorial, le totalitaire, si vous voulez, bolchevico, fascisto, nazi. Bon, ça c'est le hard. Spectaculaire concentré, spectaculaire diffus pour Debord, c'est dans les démocraties libérales, le règne de la marchandise ou le diktat du spectacle. Bon, évidemment que Nabokov aurait pas du tout apprécié ce type de, il aurait peut-être ricané, et ça lui aurait semblé trop idéologique, trop théorique, parce que c'est pas l'homme de la théorie de la philosophie, Nabokov, pas du tout.
C'est pas un théoricien du tout.
Je crois pas, non.
Même du roman.
Non. Parce que pour théoriser, il faut affairer du général, du particulier. Et lui, voilà. C'est parce qu'il
seulement
l'intéresse, c'est d'aller dans le particulier.
L'analyse du particulier, c'est la seule chose qui l'intéresse.
Voilà. Donc évidemment qu'il aurait sans doute ricané à toutes ces analyses, mais je pense qu'au fond de lui, il les ressentait profondément, et que Lolita, par exemple, est un livre qui est profondément critique sur cette dimension conformiste et cette dictature soft de la consommation ou des clichés, si vous voulez, culturels. Voilà.
Pour terminer cette émission, puisqu'on a quand même parlé beaucoup de lecture et de lecteurs et de comment il fallait faire pour bien lire, je voudrais reprendre cette citation de Nabokov qui est assez jolie, je crois. « Un livre est une malle bourrée de quantité de choses. À la douane, le préposé y fourrage négligemment pour la forme, mais le chercheur de trésors examine le moindre fil. » Et c'est cela tout de même l'enseignement, le grand enseignement des cours de Nabokov.
Oui, oui, il faut vraiment prendre phrase à phrase, mot à mot, décortiquer. Il disait même, il avait même une métaphore que j'adore, que j'ai plus en tête, je peux pas vous citer la phrase, mais proprement eucharistique, puisqu'il disait qu'il fallait prendre chaque mot, les mettre sur la langue, les savourer, comme si les papilles s'imprégnaient de chaque, phonème, de chaque.
Et puis relire surtout.
Et relire, voilà. Lire bon lecteur n'est pas quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui relit, qui découvrira à chaque fois de nouvelles. Nouveau trésor.
Lire à quatre mains, en l'occurrence avec Véra, parce que c'est ce qu'il faisait.
Et quatre ou deux, oui.
Quatre ou deux. Merci beaucoup, Cécile Guilbert. Je rappelle que vous êtes romancière, essayiste et critique littéraire. Je renvoie nos auditeurs sur le volume Bouquin Lafond où sont rassemblés certains des cours de Nabokov avec les introductions de John Updike et de Guy Davenport et puis avec votre préface inédite intitulée Les ruses du professeur Nabokov. C'est une édition qui date déjà de 2009. On peut également mentionner votre recueil de critiques, c'est chez Grasset. Ça s'appelle Sans entrave et sans temps mort. Il date lui aussi de 2009 et vous y parlez notamment de Nabokov. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Emmanuel Morse-Duncan. Demain, vous retrouverez La Compagnie des poètes avec Manu Farine. Mais tout de suite, c'est le moment de la poésie telle que nous la propose cette fois Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour La Compagnie. Sur la couverture d'étranges papillons aux ailes faites de cartes des villes, comme un bal de fantômes d'Éric Poindreau, laissons parler le poème. Celui-là même, page 44, celui-là même est vendangeur, mes bons frères, en Champagne, Bourgogne, Beaujolais, trimard dans les riches vignes de France. Il sent le tanin, observe les papillons qui se reposent sur les cuves. Il croit à l'alchimie de la chimie, caresse le chien du patron et goûte le vin doux quand le patron l'y invite. Celui-là même travaille du mieux qu'il peut, mon bon patron, même s'il confond les vacances et les vendanges. Il ne possède pas de vigne, mais il cherche à s'instruire. Curieux de tout, il goûte les deuxièmes tailles, observe les cuves et les papillons et cherche à savoir dans quel sens tourne le pressoir. Parfois, il donne un coup de main quand il faut déplacer les raisins, les guêpes caracoles au-dessus des paniers mannequins. Celui-là même vient des villes, parle aux paniers et aux raisins, et même aux abeilles qui ont des tailles mannequins. Celui-là même admire le travail du vigneron, tandis que le vigneron le croit en vacances. Ça chahute dans les vignes, ça rit en chantant, ça boit fort, ça pose encore des questions au patron. Celui-là même croit qu'il est en vendange comme un papillon. Parle à la vigne, questionne les abeilles, parle aux raisins et fatigue le patron. Celui-là même fait les vendanges en pensant que c'est dur les vendanges. À la fin de la journée, il franchit les petits fossés, escalade la butte jusqu'au pressoir pour entendre la machine bourdonner. Comme les abeilles, comme les raisins qui tournent, comme les abeilles qui tournent autour du raisin. Il fait doux et sucré dans les derniers soirs de septembre. La machine bourdonne, ça tourne comme la terre à vigne, ça grince. Ça grossit le vin, ça ronronne, ça fait des efforts d'Hercule comme un pressoir. Et puis ça sent le vin et l'allégresse, ça sent la craie comme la craie sans l'enfance. La nuit qui tombe est de sucre, les papillons s'amusent avec les étoiles. Si celui-là même possédait des vignes, il voudrait ressembler au pressoir, ronronner, ronronner, forcer, grincer, fouler, faire des efforts de Samson comme l'Hercule de la foire. Ça trinque près du pressoir, ce sont les amis du patron, habillés comme des travailleurs qui ne travaillent pas. L'un croque un raisin et tend son verre, l'autre soupèse une grappe, fier, comme s'il soulevait un gibier. Celui-là même sourit car il reconnaît la grappe, il l'a coupée cet après-midi. Il a fait connaissance avec la grappe, mais pas avec les amis du patron. Celui-là même pense au ciel qui fait presque tout, le matin, la nuit et même l'après-midi. À l'heure de la sieste des amis du patron, le ciel fait tout ce que le patron ne peut faire. Les amis du patron observent leur verre sans regarder le ciel. Celui-là même trinque avec le ciel. C'est le ciel qui invite.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures d'extraits de Comme un bal fantôme d'Éric Poindron.